ce séminaire. Avant de commencer, je voudrais quand même signaler que hier, j'ai eu une erreur dans une citation que je vous ai faite. J'ai d'ailleurs demandé qu'on corrige l'enregistrement. Quand je vous ai cité le Rav Nachman de Bratslav, je vous ai parlé de son livre qui serait les Likutei Amarim. En réalité, les Likutei Amarim, c'est le livre du Tanya. Son livre s'appelle les Likutei Moharan. Et donc, je compte sur vous pour que vous l'arrangez. Bien. Alors, n'entendez pas ? Vous m'entendez maintenant ? Oui. Peut-être qu'il faut avancer un peu le... Voilà. Alors, écoutez, le sujet de ce soir est intitulé « La Kabbalah et le judaïsme comme religion ». Nous allons donc avoir affaire à des thèmes et à des notions plus générales que ce que nous avons vu les cours précédents du soir, et à un certain nombre de problèmes qui touchent aussi d'ailleurs à la situation contemporaine de la société juive. Et je vais essayer d'en énumérer quelques-uns en explication de l'intitulé du sujet. C'est d'abord en récapitulant peut-être en une seule formule ce que nous avons appris toute cette semaine, dans les cours du matin comme dans les cours du soir, et je voudrais expliquer que finalement, si nous avons bien compris ce que nous avons appris, c'est que la Kabbalah nous apparaît comme étant le judaïsme lui-même et la religion elle-même. Quand je dis le judaïsme lui-même, et il n'y en a pas d'autre, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'autres formulations du judaïsme. Mais les formulations du judaïsme qui sont reliées aux sources même du judaïsme sont, qu'elles le sachent ou pas, reliées en réalité aux sources de la Kabbalah, de la tradition, à proprement parler, du judaïsme elle-même. Et quand je dis lui-même, et quand je dis que la Kabbalah c'est la religion elle-même, ça ne signifie pas qu'il n'existe pas bien sûr d'autres religions, mais je parle du judaïsme en tant que religion. Et ce sera donc le thème général sur lequel nous aurons à réfléchir ensemble d'ailleurs ce soir. Premièrement, il est nécessaire de, au moins de façon brève et récapitulative, de traverser très rapidement l'histoire du mot Kabbalah lui-même et de sa signification, ce qui nous mènera immédiatement à distinguer la tradition talmudique à proprement parler de la tradition kabbaliste, toujours à l'intérieur du sujet général tel que je l'ai introduit. Et cela nous mènera à un certain nombre de problèmes que je voudrais vous énumérer et qui concernent les différentes formulations, disons, culturelles, politiques, religieuses, dans le sens de confession religieuse, du judaïsme, ou mystique aussi, du judaïsme contemporain. Alors, je commence donc par la première analyse, qui consiste l'histoire du sens du mot Kabbalah. La première acception de ce mot qui nous est proposée par les différentes analyses des historiens, des manuels qui en traitent, c'est que Kabbalah signifie tradition. Mais il y a deux sortes de tradition. Tradition, c'est véhiculer un certain contenu, un certain patrimoine qui provient de temps antérieurs. Mais c'est soit la tradition en tant qu'elle est transmise, et elle s'appelle en hébreu la Massora, soit la tradition en tant qu'elle est reçue, et elle s'appellerait en hébreu Kabbalah. En effet, le terme Limsor signifie en hébreu transmettre, et le terme Lekabel signifie en hébreu recevoir. Et c'est pourquoi on trouve très communément, comme traduction du mot Kabbalah, l'expression la tradition en tant qu'elle est reçue. Et se relie à cette première définition, la définition du mot kabbaliste, qui traduit le mot hébreu mekubal, que l'on explique de la manière suivante, c'est celui qui a reçu une tradition. Mais s'il n'en était qu'ainsi, nous aurions en hébreu un tout autre mot, qui est le mot de mekabel, celui qui reçoit. En réalité, le mot mekubal devrait être traduit. Encore une fois, le mot mekubal, qui est traduit habituellement par le mot kabbaliste en français, devait être traduit par l'expression « celui qui est reçu » et non pas « celui qui reçoit ». J'espère que ce point est très rapidement suffisamment clair. Il y a une première approximation insuffisante dans la traduction habituelle qui traduit le mot Kabbalah par « tradition reçue » et uniquement cela, qui traduit le mot « Mekoubal » kabbaliste en français par l'expression « celui qui a reçu une tradition ». Tout ce que nous allons voir, je le dirai à l'avance, ce n'est pas faux vraiment, mais c'est encore approximatif. En fait, comme je viens de le rappeler, le mot « Mekoubal » devrait être traduit très littéralement par l'expression « celui qui est reçu ». Ce qui nous mène à un deuxième sens, qui est aussi habituel, tradition initiatique, et qui semble apparemment résoudre la première difficulté. S'il s'agit d'une tradition initiatique, alors on pourrait traduire « Mekoubal » par l'expression « celui qui est reçu dans la communauté des initiés ». Et il y a un certain progrès dans l'analyse de la notion « Kabbalah » Mekoubal. Cependant, nous trouvons déjà dans le vocabulaire talmudique l'emploi de l'expression Kabbalah et Mekoubal dans un tout autre sens, ce qui va nous permettre d'avancer dans cette analyse déjà au début apparemment purement sémantique. D'abord, en ce qui concerne le mot Kabbalah, il est très clair pour les érudits de la littérature talmudiste que cela signifie dans le Talmud la prophétie. Chaque fois que le Talmud fait allusion à ce qui a été reçu des prophètes, il dit Kabbalah. Or, ce qui a été reçu des prophètes, c'est ce que nous appelons en français la Bible ou en hébreu le Tanakh. Le Tanakh, plus exactement le Nach, la partie prophétique et des écrits inspirés des élèves des prophètes. La Torah elle-même a été donnée par prophétie, c'est pourquoi je dis le Tanakh, mais en récapitulant, c'est toute la tradition des prophètes d'Israël, la Torah de Moïse y compris, qui est désignée, à des niveaux différents d'ailleurs suivant les références, mais globalement qui est désignée par le vocabulaire du Talmud, par le mot Kabbalah. Et c'est déjà une chose très connue des talmudistes, mais qui semble peu connue du public en général. Par exemple, lorsque le Talmud veut dire qu'on n'a pas le droit de déduire directement une loi halakha d'un texte prophétique, puisque la loi halakha doit se déduire de la Torah elle-même, alors il dit, exactement dans les mêmes termes, qu'on ne tire pas des divrei Torah de la Kabbalah. On n'apprend pas directement à la précision d'un commandement de la loi d'un verset des prophètes. Ce que, à la rigueur, on a le droit d'apprendre, c'est l'élucidation d'un mot pour lequel on citera à l'appui un verset des prophètes. Mais le contenu de la loi doit être relié par le raisonnement talmudique au texte de la Torah elle-même. Je précise, bien entendu, la Torah, le Pentateuque, les cinq livres de la loi de Moïse nous sont transmis par la prophétie de Moïse, mais leur contenu de sagesse s'appelle Torah et est indépendant du point de vue de la relation dans l'étude par le raisonnement, indépendant du reste du Tanakh qui est premièrement les Nevi'im, les textes des prophètes, et deuxièmement les Ketuvim, les textes inspirés des élèves des prophètes que l'on appelle le Nach. Donc je reprends ces termes, Tanakh c'est l'ensemble de la Bible, le Nach c'est les deux dernières parties, les prophètes et les hagiographes comme on dit en français, c'est-à-dire les Nevi'im et les Ketuvim. Et donc lorsque le Talmud très souvent rappelle que l'on ne peut pas déduire le contenu d'une halakha, d'une loi, d'un texte des prophètes, pour dire prophète, il dit Kabbalah, ce que nous avons reçu par tradition de la prophétie, c'est-à-dire le texte biblique lui-même. Ce principe sera élargi, et lorsqu'il arrive, et il arrive souvent, qu'il semble y avoir une contradiction d'opinion entre l'enseignement des kabbalistes et l'enseignement des talmudistes sur tel ou tel point précis de halakha, on a l'habitude, dans les milieux non kabbalistes, de faire passer avant l'enseignement talmudique. C'est l'élargissement du principe précédent. Quoi qu'il en soit, le fait de se rappeler de ce point particulier que dans le vocabulaire talmudique lui-même, le mot Kabbalah ne signifie pas simplement tradition en général, on a reçu par tradition, mais ce qui a été reçu par tradition des prophètes eux-mêmes, c'est-à-dire la Bible, est une précision importante. Mais le Talmud, et ceci se trouve en particulier dans le cinquième chapitre du traité de Brachot, définit aussi le mot Mekoubal, que nous avons traduit précédemment par celui qui est reçu, et non pas seulement celui qui reçoit un contenu de Massora, de transmission, de tradition. Il le définit par l'expression qui pourrait être formulée ainsi, celui dont la prière est acceptée. Nous avons une Mishnah et la Gemara qui en traite, qui le dit très clairement. Je ne voudrais pas entrer trop dans les détails d'érudition, c'est pourquoi je vous donne les définitions elles-mêmes. S'il est nécessaire par la suite, à la suite de vos questions, nous pourrions reprendre tel ou tel point de ces références. Donc, lorsque le Talmud emploie le terme Mekoubal, cela signifie celui qui est reçu dans sa prière. Et nous avons là une première définition donc de cette sagesse qui est appelée la Kabbalah. C'est celle qui permet à celui qui prie de prier vraiment. Il y a donc une sagesse théorique, une science théorique, sur le contenu de laquelle je reviendrai aussi immédiatement, mais qui est nécessaire à l'intention de prière. Ceci pour dire, étant donné que nous avons assez rapidement, mais je pense suffisamment, énuméré les différents sens exacts du terme de Kabbalah et Mekoubal, ceci pour dire que la Kabbalah est essentiellement une religion, et non pas seulement une sagesse abstraite, coupée de la pratique d'une religion à proprement parler, comment dire cela, les mots ayant leur sens simple. Pourquoi il est nécessaire de le rappeler et d'abord de d'élucider les données. Si effectivement, et c'est le cas, la Kabbalah comme sagesse est premièrement la science qui permet l'intention de la prière, qui permet à la prière d'avoir une intention exacte, lucide, connue et intelligible, alors cela signifie que la Kabbalah est la science propre à ceux qui prient, c'est-à-dire à ceux qui sont en situation religieuse. Et nous avons déjà la première définition du terme de religion, dont l'événement central, l'événement important, est la relation de l'homme à Dieu connu comme tel, cette relation étant la prière. Et c'est effectivement le premier sens du mot Kabbalah. En général, dans l'initiation à cette tradition, on enseigne d'abord que ce qui est nécessaire concernant les kavanot de la tfila, je traduis immédiatement, les intentions de la prière. Et c'est en général ce que l'on appelle la Kabbalah théorique, celle qui transmet une connaissance du monde et des relations entre créature et créateur, connues et comprises comme telles, qui permet à la prière d'être possible. Et vous devinez déjà, à travers cette première introduction, quels sont les problèmes, disons, contemporains, mais ils ont existé à différentes époques, que je définirai immédiatement, qui se posent autour de cette première définition. C'est que, dans le monde de la culture juive contemporaine, c'est ce que j'avais annoncé à la première séance, eh bien, il semble qu'il y a un intérêt accru pour cette sagesse qui se nomme la Kabbalah, et que l'on définit parfois, ou peut-être je dirais trop souvent, à travers l'intérêt philosophique, l'intérêt abstrait philosophique, ou l'intérêt poétique littéraire, ou l'intérêt mystique, ou l'intérêt culturel en général, en mettant entre parenthèses l'essence même de la tradition de la Kabbalah, qui est d'être premièrement la sagesse, la science des intentions de la prière. Ça ne signifie pas que le contenu de cette sagesse que nous nommons Kabbalah dépasse infiniment aussi le point précis de l'intention de prière, mais cela commence par là. Et j'aurai à dire, dans les conclusions toujours provisoires que j'aurai à récapituler, que ce stade où on découvre qu'il existe une sagesse de la tradition juive, qu'elle est intelligible, qu'elle est non seulement du même niveau, mais parfois plus. Quelqu'un, pendant le séminaire, a parlé de vertige, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est présent dans la salle. C'est un premier stade. Un premier stade positif, important, mais si cela ne reste qu'à ce premier stade, il est certain que l'intention des transmetteurs de la Kabbalah aura, si j'ose dire, raté la visée qu'ils avaient. Jusqu'à notre temps culturel, il n'y avait de kabbalistes que des juifs pratiquants, étudiant la Torah à travers le Midrash, à travers le Talmud, à travers les commentaires de la Torah, qui sont des commentaires dont les sources se trouvent et dans le Midrash et dans le Talmud. Or, aujourd'hui, nous assistons à un phénomène culturel différent, semble-t-il, et un intérêt, encore une fois, purement culturel, purement abstrait, la plupart du temps de formulation philosophique, quant au contenu de cette sagesse. C'était, je vous l'avais signalé déjà le premier soir, un peu la raison de ce séminaire, de faire une mise au point à ce sujet. J'espère que ceux qui ont suivi les études que nous avons eues pendant la semaine l'ont suffisamment vu. De toute manière, c'est bien l'objet de notre thème ce soir. Nous sommes donc arrivés à une première définition de la Kabbalah, c'est la Chochma de la Tfila. C'est la science qui permet l'intention de prière d'être exacte, de plus en plus exacte, de plus en plus authentique, mais cela ne peut être compris que si chaque mot est entendu dans son sens simple. Prière, cela veut dire qu'il y a relation entre créature connue comme telle, se connaissant comme telle, et un créateur connu comme tel, et non pas l'idée de Dieu dont les philosophes parlent abondamment. Et chaque système de philosophie selon son objectif propre, mais il est bien évident que le Dieu de la Kabbalah est différent. Il s'agit premièrement du Dieu de la Bible. Il y a un deuxième sens, un peu plus profond, à la signification de Kabbalah en tant que sagesse. C'est-à-dire, nous allons passer immédiatement au-delà de la première définition, science de la prière, ou sagesse des intentions de la prière. Nous verrons d'ailleurs en troisième point que ces deux sens, le premier que nous avons déjà vu, celui que nous allons aborder, sont liés entre eux. Nous avons, entre autres choses, étudié dans les cours du matin à travers les textes et aussi dans les séances du soir, d'autre part, un principe qui revient très souvent dans l'enseignement de la Kabbalah, et surtout pour notre temps, grâce à l'œuvre que je vous ai déjà citée, d'un grand kabbaliste contemporain, qui est mort il y a à peine quelques années, et qui est le Rav Ashlag, qui nous a laissé, je vous le rappelle, un commentaire très important d'un des livres principaux des disciples, surtout le Rav Chaim Vital, le principal disciple du Hari, et qui est le Esraïm. Et il emploie très souvent cette catégorie que nous avons utilisée. Le créateur se définit comme l'être donnant l'être, et la créature se définit comme l'être recevant l'être. Et je pense que déjà en français, vous entendez l'analogie entre Kabbalah, recevoir, réception, et la définition de la créature, l'être recevant l'être. Nous abordons ici une définition très simple mais très importante, c'est que la Kabbalah serait donc la sagesse ou la science de la réception de l'être. Comment être créature? Comment recevoir l'être qui est donné par le Créateur? Je reprends les termes en hébreu, puis en français. Chochmata Kabbalah, oublions tout ce que nous avons appris précédemment. Chochmata Kabbalah signifierait très simplement la chochma du fait de recevoir l'être, c'est-à-dire au fond l'essentiel. C'est-à-dire au fond aussi l'essentiel de ce que nous appelons en général la religion. Si l'homme se connaît comme créature, c'est-à-dire recevant l'être d'un créateur qui donne l'être, et non pas d'une idée de Dieu à la manière des philosophes, alors nous avons là la définition du fait religieux par excellence. Et ainsi, Chochmat HaKabbalah signifierait la science du fait de recevoir l'être, et nous abordons là la deuxième définition. Or, ces deux définitions, science des intentions de la prière, et science de la réception de l'être sont évidemment liées. Elles sont peut-être à la limite les mêmes. Je vais donc reprendre cette analyse. Puisque l'objet de la prière, c'est toujours de demander un surcroît d'être. Lorsque nous étudions les formules même de la liturgie des prières dans la tradition juive, c'est vrai aussi d'ailleurs dans d'autres traditions, on s'aperçoit que ce que nous demandons se nomme en hébreu la bracha, c'est-à-dire la bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle les prières, les demandes de prière, et toute prière est à la limite demande, sont formulées vis-à-vis du Baruch, c'est-à-dire celui qui donne les bénédictions. Nous savons que dans les traductions habituelles, le mot de Baruch en hébreu se traduit par béni. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse à ce sujet, je crois que cela est nécessaire malgré tout. Les traductions habituelles, des formules habituelles des bénédictions, et n'oublions pas que le texte de la prière, le texte central de la prière, se nomme 18 bénédictions, Shmoneh Esreh. Vous savez d'ailleurs que ces 18 bénédictions sont en réalité 19. Et il y a des raisons pour cela, c'est pas le sujet de ce soir. Continuons à les appeler les 18 bénédictions. Elles étaient d'ailleurs primitivement 17, mais c'est un autre sujet. Donc 17, qui sont 19, mais c'est 18. Et on les appelle le Shmoneh Esreh Brachot. Et c'est formulé toujours par l'intitulé Baruch Ata Hashem. Et on traduit habituellement Béni sois-tu, toi qui es celui qui est, celui qui est Dieu, bien entendu. Et je voudrais très rapidement indiquer en quoi il y a non pas une erreur de traduction, mais une difficulté de traduction. Je pense que les traducteurs habituels ont préféré la formule « loué sois-tu » parce qu'ils se sont trouvés devant une difficulté. Comment dire, sous forme de souhait à Dieu lui-même, « béni sois-tu » qui bénirait Dieu. Et c'est pourquoi, sans doute, beaucoup de traducteurs, surtout, encore assez récents, je veux dire, les traducteurs contemporains ont repris, malgré tout, la traduction de « béni » sur laquelle je viendrai immédiatement. Ils se sont trouvés donc devant cette difficulté, comment souhaiter la bénédiction à Dieu, quoique nous avons des sources qui légitiment aussi cette formule « béni sois-tu, mais je deviendrai » et ils en ont traduit « loué sois-tu ». En fait, la difficulté est plus profonde dans cette formule. Non seulement le terme de « Baruch » ne signifie pas « loué » mais « béni », mais il n'est pas écrit « sois-tu ». Notre formule porte « Baruch Ata », ce qui signifie « tu es ». C'est une affirmation, « tu es » en deux mots. Ça veut dire « nous te reconnaissons comme étant le béni par excellence », ce qui signifie en hébreu « Mekor Avrachot », c'est-à-dire « source des bénédictions ». C'est-à-dire que la signification hébraïque est exactement inverse de ce que cette traduction impossible, par exemple en français, voulait éviter. Tu es celui que personne ne peut bénir, et cela signifie en hébreu le Baruch par essence, celui qui est béni par essence, et les commentaires habituels, traditionnels, nous donnent la formule Mekor Abrachot, qui signifie la source des bénédictions. Et donc, la formulation la plus proche de la littéralité hébraïque serait « Nous te reconnaissons comme source des bénédictions, toi qui es celui » et les formules sont parfois différentes, en fin de compte, créateur du monde. Et c'est pourquoi, devant cette difficulté de traduire Baruch par béni dans le sens d'un participe passé habituel, on a préféré substituer le mot de louer, mais quoi qu'il en soit, les deux formules « béni sois-tu » ou « loué sois-tu » sont imparfaites. La formule exacte devrait être traduite littéralement comme je viens de le faire. « Nous te reconnaissons comme source de bénédiction, toi qui es dispensateur de tel ou tel bienfait. » Or, en revenant au terme de « bracha », « bénédiction », qui est l'objet de la demande de bénédiction, il s'agit bien d'un surcroît d'être, d'une densité supplémentaire de l'être, et nos deux définitions du mot de Kabbalah se rejoignent donc. La première était la science de l'intention de la prière, la prière est en elle-même la demande de l'être, par celui qui est déjà mais tellement imparfaitement et qui demande une bracha supplémentaire, et donc la deuxième formule, science de la réception d'être, est très liée à la première. Et je pense que la conclusion de cette première analyse est claire. S'il en est ainsi, et je crois qu'on peut dire s'il en est ainsi, eh bien, la tradition de la Kabbalah est essentiellement religieuse. On pourrait, je pense même, le formuler de la manière suivante, c'est la religion elle-même. Et en effet, il arrive très souvent dans la société juive contemporaine que l'on entende des déclarations de foi que je vais essayer de formuler de la manière suivante. Je suis juif, mais pas croyant, pas pratiquant, je ne m'intéresse pas à l'histoire juive, etc. Il y a toujours ce « mais » qui est toujours négatif. Mais je suis juif, peut-être plus que vous. Je pense que vous êtes déjà habitué dans les années que nous traversons à ce genre de déclaration. Je crois que pour expliquer ce problème, et il faut l'expliquer, car en fait, je partirai du postulat suivant, il est vrai pour la tradition juive, que tout juif, quel qu'il soit, et quelle que soit la manière dont il se définit, si j'ose dire, quels que soient les mais qu'il s'ajoute, est juif selon la tradition juive. Les professions de foi en question sont parfois inutiles sur le fond du sujet. Mais cela vient d'une distinction très importante, et d'ailleurs que la Kabbalah explique elle-même, entre l'être collectif du peuple juif et les individus qui le composent. Et bien évidemment, au niveau des individus, toutes les équations d'identité sont possibles et il n'y a donc pas de contradiction dans la formule traditionnelle. Il y a un seul judaïsme et c'est celui de ses sources, de son contenu et de ses références. À la limite, dans notre sujet, il s'agit de la Kabbalah. Et cependant, il y a une infinité de manières d'être juif possibles. Il n'y a pas de contradiction dès que l'on se rend compte de l'importance de cette précision. Il y a une différence de nature entre l'identité collective et l'identité des individus particuliers qui, chacun d'entre eux, peuvent avoir l'équation personnelle qu'ils se choisissent. Et je pense qu'il y a là un moment de ce thème très important et qui peut résoudre ces difficultés. Voilà donc, si vous voulez, la première analyse qui me semble indispensable à explorer pour pouvoir répondre à l'intitulé de notre problème, qui est la Kabbalah et le judaïsme comme religion. J'ai intentionnellement enfermé ce thème dans une analyse que j'ai voulu brève pour qu'elle soit directement accessible et qu'elle puisse servir facilement, le plus facilement possible, de base à l'échange de vues que nous aurons certainement tout à l'heure après la deuxième analyse que je vous propose. Ceci dit, il faut parler non seulement de l'histoire du mot Kabbalah et du mot Mekoubal, je pense que c'est suffisamment clair maintenant, mais de l'histoire de la Kabbalah elle-même. Je vais donc essayer très brièvement, très rapidement, de brasser le schéma d'une longue histoire qui commence au prophète et qui va jusqu'à nous. Alors nous allons traverser différentes époques. Au temps de la prophétie, au temps des prophètes, c'est le temps hébreu de la nation hébraïque dont nous parle la Bible, eh bien, il y a identification entre Kabbalah et prophétie. C'est la même chose. Le mot de Kabbalah n'a pas à être employé au temps des prophètes. C'est une toute autre expression que nous trouvons pour dire ceux qui reçoivent des prophètes, c'est les bnei haneviim, les fils des prophètes, qui est indiqué d'ailleurs dans les textes prophétiques. Lorsque la prophétie cesse, lorsque le temps de la nation hébraïque cesse, et c'est le temps où cesse la prophétie, c'est en particulier Judas Lévi qui l'a expliqué dans le Kuzari, en en donnant deux raisons principales, la dispersion du peuple hébreu qui devient le peuple juif dispersé, et le fait que ce peuple juif dispersé est séparé de sa propre terre, puisque Judas Lévi l'explique abondamment dans le Kuzari, la prophétie n'est possible que lorsque le peuple juif est relié à sa terre. Tout ceci demande à être expliqué et éclairé, mais je voudrais procéder par analyse de postulats. Et lorsque le temps de la nation hébraïque cesse, la prophétie cesse, deux lignées différentes de la transmission du contenu de la prophétie apparaissent. C'est la deuxième époque. C'est l'époque de la Mishnah, qui est la première partie du Talmud. Et nous nous situons dans les 4, 5, 600 ans avant l'ère actuelle. Le temps de la Mishnah commence déjà là, à l'arrêt de la prophétie, et va se perpétuer jusqu'à la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire le commencement de l'ère actuelle, du deuxième royaume de Juda. Là, deux lignées différentes vont apparaître. Je vais d'abord le dire en hébreu, et ensuite je traduirai en français. La lignée de Pashtanim, ce qu'on pourrait traduire par la lignée, disons, exotérique, de la transmission des contenus de prophétie, et la médiation, la relation entre les Pashtanim, ceux de la tradition exotérique, et le contenu de la prophétie, se fait par deux biais. Le premier, celui de la connaissance exacte de ce que disent les prophètes, et le deuxième biais, celui de la foi que ce que les prophètes avaient dit est vrai dans le sens que l'événement qu'ils racontent s'est produit. Seuls sont restés juifs à travers les siècles, ceux de la lignée des Pashtanim, la lignée exotérique, ceux qui ont gardé et l'une et l'autre de ces dimensions, la dimension de connaissance et la dimension de foi. Et jusqu'à nous, à la suite de sélection d'identité, si j'ose dire, que l'histoire juive nous raconte, nous retrace, nous sommes tous, comme vous le savez, des rescapés, de rescapés, de rescapés à travers les siècles, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se rattache au judaïsme dans l'ensemble, au judaïsme en général, sont reliés, quelle que soit leur équation personnelle, à ce judaïsme des Pashtanim, des maîtres de la Mishnah que l'on appelle les Tanaïm, et qui se relient par le biais de la connaissance et de la foi au contenu de la prophétie hébraïque, quel que soit le niveau, le degré où chacun se situe dans cette connaissance, dans cette foi. Il peut arriver d'ailleurs, à l'échelle de l'équation personnelle, que le niveau soit négatif. C'est-à-dire que cette transmission se heurte soit à une révolte, soit à une absence, soit à une méconnaissance. Et donc, il y a aussi, faisant partie du peuple juif groupé autour de l'enseignement des Pashtanim, les Tanaïm de la tradition exotérique, il y a aussi ce qu'on appelle dans le vocabulaire contemporain des juifs athées, ou qui se disent tels, ce qui n'annule en rien le fait que la tradition par laquelle ils se définissent soit une tradition religieuse. Encore une fois, le problème est important parce que le vocabulaire philosophique ayant tellement envahi la culture juive, il semble qu'on ait substitué la référence au Dieu de la Bible par la référence philosophique de l'idée de Dieu, ce qui est radicalement différent. D'autre part, la deuxième lignée, c'est la lignée qui va donner naissance à ce que nous appelons aujourd'hui la Kabbalah. Alors, c'est la lignée des Mekoubalim. Leurs maîtres sont aussi des Tanaïm, mais des Tanaïm qui sont les élèves des prophètes, pas seulement dans l'ordre de la première dimension, relation par la connaissance et par la foi, mais relation, et cette fois je dirais initiatique, à la signification prophétique de l'hébreu des prophètes, et pas seulement à la signification hébraïque de l'hébreu des prophètes. Je répète la formule parce que je crois qu'elle est importante. La première lignée se relie par la connaissance au contenu de la prophétie hébraïque, et cette connaissance est immense. C'est toute la littérature que je vous définirai rapidement par le terme de littérature rabbinique talmudique, et deuxièmement par le biais de la foi. Mais cette connaissance, c'est surtout la connaissance de l'hébreu des prophètes, plus que la connaissance du sens prophétique de l'hébreu qu'employaient les prophètes. Ceci est le propre de la deuxième lignée qui, très rapidement, cela s'annonce déjà au temps de la Mishnah, s'appelleront les Mekoubalim. Certaines formulations de la Mishnah le nomment d'ailleurs les Chassidim Arishonim. Ne les confondez pas avec les mouvements chassidiques très postérieurs, qui n'ont strictement rien à voir avec ce que la Mishnah nomme ou appelle les Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim. C'était ceux qui étaient encore fidèles à la tradition des prophètes, mais entendus dans le contenu prophétique de la langue qu'ils employaient. Qu'est-il arrivé entre-temps? Pourquoi ces deux lignées se sont, non pas séparées, mais ont apparu distinctes l'une de l'autre? C'est tout simplement parce que la prophétie ayant cessé, le monde devient autre que celui qu'il était au temps où la prophétie était événement réel de révélation. J'avais indiqué ce point du problème dans une des conférences de ce séminaire en vous disant que la difficulté de l'approche à la Kabbalah, c'est précisément que les kabbalistes se trouvent dans le même monde que les philosophes, c'est-à-dire le monde tel qu'il est depuis l'arrêt, ou l'occultation plus exactement, de la prophétie. Mais cela commence en réalité il y a 2004, 500, 600 ans, au temps de la Mishnah. Déjà tout près du temps de la prophétie, tout près du temps de la révélation, au temps de la Mishnah, vous le savez, ceux qui ont étudié l'histoire de cette période, ont foisonné ce qu'on appelle les minimes, c'est-à-dire les différentes sectes très nombreuses. Elles étaient peut-être aussi nombreuses que les partis politiques juifs contemporains et les lettres de l'alphabet hébreu. Et peut-être ce sont les mêmes qui résurgissent d'ailleurs. Un foisonnement de ce que le Talmud appelle les minimes, c'est-à-dire les sectateurs, les membres des sectes à cette époque. La réaction à cette absence de la référence à l'événement de révélation et de prophétie a été premièrement ce foisonnement de sectes et deuxièmement la séparation de deux grands courants, tous deux authentiques, le courant des Pashtanim, qui se relie à la prophétie hébraïque, encore une fois, non pas de l'extérieur, c'est très profondément attaché à la prophétie hébraïque par la connaissance et la foi, et d'autre part le courant des kabbalistes, qui très rapidement devient minoritaire par le nombre, par définition, et donc aussi initiatique, et qui sont non pas seulement les croyants dans la parole des prophètes, mais les disciples de la parole des prophètes. J'espère en avoir dit suffisamment pour éclairer ces deux courants. Que se passe-t-il dans le monde de la culture générale pendant ces temps-là? Eh bien, très, très succinctement, au temps de la prophétie, autour d'Israël, c'est le temps de la mythologie. Et ce que je vous décris là étant bien évidemment très, très schématique, les différentes mutations que nous allons suivre prennent le temps de longues périodes. Ça ne se passe pas subitement. Et par conséquent, la mythologie dont je vous parle, qui est le temps culturel environnant le temps de la prophétie, va avoir son temps de rémanence pendant plusieurs siècles dans les sociétés autour d'Israël, c'est-à-dire l'humanité universelle. Mais suivons surtout les mutations elles-mêmes. Donc, au temps de la prophétie, il y a autour d'Israël le temps de la mythologie. J'en dirai que quelques phrases. Étant donné la cohérence de l'enseignement de la tradition biblique et donc juive et donc kabbaliste, si la révélation se produit, elle se produit à l'échelle universelle, parce qu'il s'agit de la révélation du Dieu unique. Si il s'agit du Dieu unique, sa révélation est universelle par le fait même, et elle atteint chaque société à travers l'équation personnelle de chaque société. Le propre de la tradition d'Israël, c'est que cette révélation a été directe, sans médiation de l'équation personnelle que nous trouvons dans les différentes mythologies et qui est celle du prisme psychique de chaque société. Ceci, bien entendu, pour nous est clair, mais j'entends très bien que cela peut être discuté. N'y a-t-il pas aussi une équation personnelle des prophètes d'Israël? Ceux qui étudient attentivement le récit biblique, ceux qui étudient surtout l'impact que ce récit biblique a eu dans l'universel humain, à travers les différentes grandes traditions qui s'en sont détachées et qui en ont été plus ou moins issues, se rendent compte qu'il y a dans la prophétie propre à Israël un phénomène particulier qui a, par essence, un impact, mais une portée d'ordre universel. Et que cela vient du fait, et c'est peut-être le mystère, mettez cela entre guillemets, ce n'est pas un mot qui appartient à la tradition juive, mais c'est peut-être le mystère du temps des patriarches, de l'identité des patriarches, qu'ils n'ont pas mis entre la révélation du Dieu unique et la parole de leur prophétie, leur propre équation personnelle. Je referme donc cette parenthèse. Le temps suivant, c'est très rapidement, dans l'universel humain, le temps de la prophétie. C'est pourquoi suivra le texte des prophètes lui-même, La littérature, les Tanaïm du courant kabbaliste, je vous en cite que deux ouvrages principaux, c'est d'une part le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'autre part le Sefer HaBahir de Rabbi Nachumia Ben Hakana, et vous remarquez en hébreu que le mot Zohar et le mot Bahir ont une signification très, très voisine, qui sont encore, j'emploie souvent ce terme, et il me semble en français le plus significatif, de l'ordre de la rémanence de ce qu'était la révélation prophétique. C'est encore de l'ordre de la vision. Et très rapidement, nous abordons la troisième époque dans la tradition juive, qui est précisément celle qui va prendre acte que la formulation de l'intelligence dans l'universel humain, dans le fait culturel général, est celui de la philosophie. Et il va s'agir très rapidement de ce que nous appelons la Kabbalah séfaradite, qui est la Kabbalah palestinienne, et qui, d'après la destruction du deuxième temple, et qui va prendre pour véhicule d'expression la conceptualisation de la philosophie générale. Je récapitule ces trois premières étapes. Nous avons d'abord la prophétie elle-même, ensuite le temps du Zohar, disons le temps de la Mishnah, ensuite le temps de la Kabbalah séfaradite. Les véhicules sont différents. Le véhicule de la prophétie, c'est la prophétie elle-même. Le véhicule de la littérature kabbaliste du temps de la Mishnah, c'est la rémanence de la prophétie, c'est la vision des grands Tanaïm, du Zohar ou du Bahir, ou des choses analogues. Et troisièmement, c'est le temps de la Kabbalah séfaradite, qui, elle, est d'exposition philosophique. Puis, dans la culture générale, dans la culture universelle, il y a développement, et pour aller très rapidement dans ce schéma, on aborde le temps qui est connu et qui est déjà encore près de nous, le temps de la découverte de la psychologie. Parallèlement à ce développement de l'histoire de la culture humaine dans l'universel en général, suit la chassidut, le chassidisme, suit le temps de la Kabbalah séfaradite, qui suivait le temps de la Mishnah, qui suivait le temps des prophètes. Et puis, de notre temps, semble-t-il, tout ceci est encore une fois schématique mais nécessaire, semble-t-il, la culture générale est plus attentive au fait social qu'au fait psychologique. Elle n'a pas oublié le fait mythologique où elle le retrouve. Elle n'a pas oublié le fait philosophique où elle le retrouve. Elle n'a pas oublié le fait psychologique où elle le retrouve. Mais elle semble plus attentive au fait social. Le collectif prend plus d'importance que l'individuel dans la culture générale. Et c'est la dernière mutation que nous sommes en train de vivre, je vous les récapitule, pour que tout soit clair. Après les prophètes, les Tanaïm de la tradition kabbaliste, après eux la Kabbalah séfaradite, après eux la Chassidut, et après eux les kabbalistes qui se préoccupent de formuler le contenu de la prophétie, le contenu de la Torah, au niveau du fait collectif, et c'est là que nous abordons le dernier stade. Le grand maître de ce dernier stade étant l'œuvre du Rav Kook, et en particulier le Orot HaKodesh, que nous avons étudié dans le cours du matin. Et vous comprenez le lien avec la situation contemporaine. Ceci est très contemporain de l'existence d'Israël comme société, après 2000 ans d'exil, et sous forme de nation hébraïque. Voilà, très rapidement, la deuxième analyse que je voulais vous proposer, indépendamment du mot Kabbalah, du mot Mekoubal, qui se définit comme étant l'expérience religieuse elle-même, et tous les travaux d'approche, il faudrait les appeler ainsi, parce que ce sont vraiment des travaux de formulation au niveau de la culture contemporaine, surtout philosophique, ne peuvent être que des étapes préalables. La deuxième analyse est celle de l'histoire de la Kabbalah elle-même. Vous sentez que tout cela est très schématique, bien sûr, et les différentes étapes qu'elle a traversées jusqu'à nous. Dans tous les cas, et sans exception, il s'agit de la formulation de la connaissance du monde et de la relation du monde à son créateur que la tradition hébraïque avait des contenus bibliques. Dans tous les cas, et sans exception. J'aborderai très brièvement une troisième analyse en vous citant, à mon sens en tout cas, les grands noms, les grandes mutations de ces différentes étapes. Au temps de la prophétie, c'est le nom de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui est Rabban chez la Nevi'im, le maître des prophètes. Et effectivement, comme je l'ai signalé tout à l'heure, le contenu de la Torah, le Pentateuque, nous est transmis par la prophétie de Moïse, Il est d'une nature autre, sinon supérieure, au contenu des autres livres prophétiques, mais il est de l'ordre prophétique. Au temps des Tanaïm, le principal nom qui est connu, il y en a d'autres, c'est le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Au temps de la Kabbalah Sfaradit, le principal nom qui est connu, mais il y en a d'autres, et beaucoup d'autres, c'est le nom du Ari, Rabbi Yitzhak Luria. Au temps de la Chassidut, c'est le nom du Baal Shem Tov, et ils ont, chacun d'entre eux, assuré cette mutation de la révélation, de l'expression de cette révélation, d'étape culturelle en étape culturelle. Et de notre temps, bien évidemment, en tout cas c'est ce que je dirais, c'est le nom du Rav Kook. Voici donc là